Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voix Enchantée continue en ce mois de février à dresser le portrait radio d'un invité qui vient partager avec nous ses goûts artistiques. On parle musique, littérature, cinéma et plus généralement, on s'intéresse à la sensibilité de la personne qu'on reçoit et à sa manière de penser. Voix Enchantée.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter. Je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, on reçoit Léonard. Salut Léonard.
Salut Louisa.
Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, si tu as des passions artistiques par exemple ?
Alors, donc je m'appelle Léonard, j'ai 27 ans. Ça fait quelques mois que je suis journaliste, j'ai fait un peu d'autres trucs avant, j'ai été prof, j'ai travaillé un peu dans le milieu politique aussi. Et puis j'aime beaucoup écouter de la musique à côté du travail. J'aime bien faire du sport aussi, et puis jouer un peu aux échecs, aux jeux vidéo, voir des amis.
Écouter de la musique et faire un peu de musique, je crois.
Faire un peu de musique aussi, oui, absolument. Je mixe quelquefois, généralement avec des amis, là au Nouvel An par exemple, c'était sympa. Mais je mets aussi quelques mix sur la plateforme SoundCloud.
Ok, ben on commence tout de suite avec la première étape de l'émission, qui est celle du choix de l'artiste. Alors Léonard, comme chaque mois, l'émission s'ouvre avec le choix d'un artiste qui touche particulièrement notre invité. Toi, de qui tu vas nous parler aujourd'hui ?
J'aimerais parler de Laurent Garnier. Donc, Laurent Garnier, c'est un artiste français, un producteur, un DJ aussi de musique électronique qui a vraiment été l'un des premiers en France à avoir contribué à la connaissance de la musique électronique dans les années 90. 30 ans après, il est toujours DJ, il fait toujours énormément de scènes de musique électronique. Et c'est quelqu'un qui m'inspire parce que c'est une personne qui a vraiment contribué à faire connaître la musique électronique et à lui donner une légitimité qu'elle n'avait pas au début des années 90 où on associait vraiment le type de musique électronique techno, house, à des musiques de Deviant, des musiques un peu sous-cotées par rapport à certaines musiques dites classiques. Et à l'époque, par exemple, c'était la pop, le rock, le rap commençait aussi un peu à être connu, mais voilà, il a été un peu un passeur.
Et du coup, c'est un artiste électro. Mais j'ai l'impression qu'il mixe aussi des fois des morceaux. Enfin, c'est une vidéo combinée que j'ai regardée du coup sur lui,
ouais.
Où il parle de quand il mixe, par exemple, il va avoir des inspirations rock, jazz, blues, etc. Est-ce que quand il mixe comme ça et que du coup il y a plein de styles musicaux qui se rencontrent, tu reconnais quand même toi la patte, le style de cet artiste-là ?
Sa patte, elle se sent vraiment dans les morceaux qu'il va faire. En revanche, en tant que compositeur. En revanche, en tant que DJ ou en associant des musiques de différents genres, il va être très bon dans la capacité à créer une harmonie là où le public ne va pas l'attendre nécessairement. C'est-à-dire que, par exemple, associé dans la vidéo de Combinil, c'est très bien montré, quand il associe un morceau d'Ice-T, de rap, à quelque chose datant plus de la disco ou de la funk des années 80, il arrive vraiment en fait, à passer entre les genres là où, pour beaucoup de personnes s'associent à un genre musical. J'aime le rap, j'aime pas la musique classique, j'aime le jazz, j'aime pas la pop. Et Laurent Garnier a, dans la vidéo Combini, à nouveau on le voit très bien, mais il a une énorme discothèque et donc en fait il est capable vraiment d'aller piocher un son d'un genre et de l'associer avec un autre, et ça je trouve ça vraiment très très fort.
Je vous propose qu'on écoute un petit extrait de Wake Up, qui est une de ses compositions.
Absolument.
Alors Léonard, on vient d'écouter un petit peu d'électro, techno. Moi, je ne fais pas trop la différence, je t'avoue, mais je voulais te poser la question de ton rapport à ce style de musique-là, parce que personnellement, moi, je ne peux pas m'empêcher de bouger une partie du corps quand j'écoute ce morceau, et pour autant, je ne me sens pas appelée vers les soirées techno parisiennes, le monde électro, tout ça. Et alors peut-être que toi, tu peux nous parler de ton rapport, je ne sais pas, quand tu vas dans les soirées électro, quand tu l'écoutes au quotidien, ce style de musique.
Ouais, moi j'ai un rapport, je dirais, complexe à la musique et à la danse. Parce que déjà, la musique électronique ou les musiques électroniques, donc y en a différents genres. Il y a énormément de débats sur est-ce que ça fait partie d'un même grand genre ou pas, quelles sont les différences entre elles. Moi au début, j'aimais pas du tout. Je trouvais que c'était barbare. Voilà, dans l'extrait, en l'occurrence, c'est une musique qui dure 7 minutes. Donc on n'est pas du tout adapté non plus à entendre des morceaux qui font parfois le double de ce qu'on écoute en général. Mais la musique techno, c'est de la composition à partir de certains instruments et ça crée des boucles rythmiques. Et donc en fait, au fur et à mesure, et c'est pour ça que les morceaux sont parfois aussi longs, c'est que ça crée une harmonie au fur et à mesure de l'ajout de nouveaux instruments. Et donc là, on voit bien par exemple au début de l'extrait, mais il va y avoir tout un jeu à travers les différentes phases de la musique sur 7 minutes. Donc ça, c'est par rapport à cette musique-là. Et moi, j'ai envie de dire, je l'apprécie presque d'autant plus dans mes écouteurs, chez moi, tranquillement, que en boîte. Je suis davantage attiré par le côté harmonieux de ces musiques électroniques-là que par le côté festif et vraiment full en transe dans les boîtes de nuit ou dans des festivals.
Bon, on va rester en musique avec ton coup de cœur musical. Léonard, avant de l'écouter, est-ce que tu peux nous donner le nom de l'artiste et le titre du morceau ?
Oui, cet artiste, c'est Sofiane Pamar. Le morceau, c'est La Havane.
On l'écoute tout de suite. Alors Léonard, parle-nous de ce beau morceau.
Ouais, c'est un très très beau morceau. Pour l'anecdote, moi je suis très fan des tops annuels des plateformes de musique, donc Deezer, Spotify. Et je savais que j'avais beaucoup écouté, mais il fait vraiment partie des morceaux, des 5 morceaux les plus écoutés sur l'année 2022, me concernant sur mon compte sur une plateforme de musique. Donc c'est vraiment un très très beau morceau. Je trouve qu'il y a énormément de passages. Je parlais de passages et de phases dans la musique électronique. Là, en l'occurrence, il y a une diversité de passages avec des tempos différents. Il joue sur les notes aiguës du piano au bout des 2-3 minutes. On a l'impression de descendre un fleuve. Alors, moi, personnellement, j'ai du mal à me projeter à La Havane. Mm-hmm. Mais au fond, peu importe. Et je trouve qu'en écoutant ce type de morceau-là, ça pousse aussi l'imaginaire à se représenter quelque chose de la musique, plus qu'à l'écouter.
Et tu te projettes où, du coup, si c'est pas indiscret ?
Plus proche de la mer Méditerranée, sur une vue sur la mer ou un paysage ensoleillé.
Et c'est marrant parce que moi, j'ai écouté comme ça le début de ce morceau. Donc déjà, ça m'a fait penser un petit peu à du Aznavour ou à du... Enfin, en tout cas, à des poètes. J'aurais pu imaginer la voix d'Aznavour qui apparaissent un peu en mode la bohème, les buts de Montmartre, quoi. Ou encore Léo Ferré, enfin, Brel, des poètes, Brel. Et tout ça pour te dire que le piano, finalement, comme tu parlais des différents passages, il prend en charge la voix poétique, en fait, de... qu'on pourrait attendre, en fait. On pourrait attendre un texte comme la bohème. Mais en fait, on a le piano qui se suffit à lui-même et qui comporte en lui le chant, en fait, d'une certaine façon.
Ouais, la musique instrumentale est vraiment extrêmement puissante. On s'attend dans la musique à avoir, uniquement, à avoir l'association instrument et voix. Et en fait, quand on dissocie les deux, que ce soit uniquement de la voix, donc a cappella, ou uniquement instrument, c'est autant aussi puissant. Mmh. Mais ça évoque en fait des imagines, enfin, totalement autre chose que l'association des deux.
Et toi, tu dirais que tu écoutes beaucoup les instruments comme ça ou la musique électro qui n'a pas de paroles. Enfin, c'est quoi ton rapport aux chansons qui ont des paroles, aux musiques qui ont des paroles ?
Ah, moi, mes oreilles accrochent beaucoup par rapport aux sonorités. Donc, j'aime beaucoup les instruments. Je ne sais pas trop en faire, malheureusement, mais j'aime bien les deux. Je ne saurais pas sélectionner, mais c'est vraiment... Je dirais plus, d'un côté, c'est l'harmonie et de l'autre, c'est plus du vécu, les voix. Ça a vraiment diffusé autre chose.
Ce morceau-là, moi, il ne m'évoque pas forcément... Enfin, même si le piano, il y a quelque chose de très pur, non ? Il y a une mélodie comme ça. Mais il ne m'évoque pas forcément une émotion en mode là, c'est de la nostalgie, là, c'est de la colère, là, c'est de la tristesse. Ça m'a plus fait penser ou mis dans une sensation, un peu d'apaisement, de beauté, enfin quelque chose d'assez rond, quoi. Et je voulais savoir, toi, un petit peu, ce qui se passe encore une fois dans ta tête.
Maintenant, je comprends le côté La Havane. Je viens de le comprendre dans après ce que tu as dit. En fait, la mélodie, ça me fait penser à un temps suspendu. Et Cuba, j'y suis jamais allé, mais Cuba est réputé un peu pour continuer à vivre comme dans les années 50, avec les vieilles voitures, un état de développement économique aussi un peu différent de ce qu'il y a dans d'autres pays. Mais je dirais ce côté temps suspendu, et moi, je ressens beaucoup de mélancolie, en fait, en écoutant cette musique-là.
Ben, on va tout de suite passer à ton partage de texte. Peut-être qu'avant de nous lire ton texte, Léonard, tu peux nous le contextualiser un petit peu, nous dire si tu l'as écrit pour l'émission ou si tu l'avais écrit avant.
Alors, c'est une création pure et dure pour l'émission. Quand j'ai appris qu'il fallait partager un texte, j'étais un peu paniqué. Et puis, du coup, j'ai décidé de réfléchir à quel type de texte j'allais produire et j'ai décidé de m'orienter davantage vers un texte personnel sur mon rapport à l'écriture.
Ok, super. Ben, on t'écoute, merci beaucoup.
C'est la première fois que je me livre à un tel exercice d'écriture. Partager un texte en parlant à la première personne. Pourtant, par mon travail comme par habitude, je partage des textes tous les jours. Depuis 10 ans, l'écriture se décline dans ma vie au quotidien. J'ai commencé à noircir des carnets quand je préparais le concours d'entrée à Sciences Po. J'ai poursuivi pour écrire des dissertations, des mémoires de recherche, des copies de concours à l'agrégation, des discours, des articles. Il serait impossible de totaliser le nombre de pages écrites sur cette période. Parfois, c'était seulement 3 mots dans un carnet durant toute une semaine. À d'autres moments, je devais écrire 20 pages en 7 heures, ou écrire, comme en ce moment au travail, un article en une journée. Ces textes ont toujours été, d'une certaine manière, des commandes. Ils étaient et sont faits pour d'autres. Les textes écrits pour moi ont principalement toujours visé au soulagement, par la mise à l'écrit, de multiples pensées qui peuvent tourbillonner dans ma tête chaque jour. Le philosophe Michel Foucault disait d'ailleurs « On écrit des choses pour ne plus avoir à y penser ». Si l'écriture était un cours d'eau, alors j'ai créé en 10 ans une mer de textes, sans savoir encore y nager par moi-même. L'écrit a toujours eu pour moi une valeur instrumentale, fonctionnelle, intellectuelle. Il n'a que trop rarement eu une fonction esthétique, culturelle, créative. Pourquoi écrire autant et prendre autant de plaisir dans l'écriture, mais ne pas parvenir à considérer le partage d'un texte plus personnel comme intéressant et enrichissant pour les autres ? Tenter de comprendre pourquoi j'éprouve cette difficulté m'a pendant très longtemps laissé sans réponse. D'ailleurs, elle ne m'est que récemment apparue. J'ai l'impression que la difficulté réside précisément dans la capacité à assumer personnellement ce que j'écris, à écrire avec ma subjectivité, sans quête d'objectivité ou sans devoir m'exprimer à la place de quelqu'un d'autre. Pour moi, le texte est le produit d'un dialogue matériel et immatériel entre le monde et soi-même. Ce texte, quand il est produit, crée un écho dans le bruit du monde et entre en résonance avec lui. C'est ou c'était la force d'auteur et d'autrice comme Svetlana Alexeïevitch, Éric Villard, Annie Ernaux ou à une époque différente, Victor Hugo. Or, mon écho me semble fondamentalement faible et dissonant par rapport à l'harmonie pouvant se dégager des textes d'écrivains et d'écrivaines. De la même manière qu'il est toujours étrange d'écouter sa propre voix enregistrée, de même, mes écrits ne m'ont jamais enchanté. Au fond, écrire, c'est se jeter à l'eau. Peut-être que le propre des écrivains réside précisément dans l'insouciance de plonger dans l'eau. Je sens que tout cela est progressivement en train de changer. À mesure que le volcan sur lequel j'ai dansé ces dernières années se fait de moins en moins explosif et de plus en plus effusif, je parviens petit à petit à relire mes textes, à avoir envie d'en écrire d'autres, davantage pour moi que pour d'autres. Alors que cette nouvelle année vient de voir le mois de janvier se clore, je vais tricher et exprimer une résolution pour 2023 et les années suivantes. Continuer à écrire et à voguer sur la mer de l'écriture, plus seulement sur commande, mais aussi par envie, pour prendre le large, afin de ressentir davantage la joie d'écrire à la première personne.
Merci beaucoup, Léonard, pour ce partage de texte qui, du coup, était un petit peu sur commande, mais plus personnel qu'écrire un discours ou un article, j'imagine. On va tout de suite passer à l'œuvre phare, qui est une étape un petit peu difficile encore de Voix Enchantées, puisqu'il faut choisir parmi plusieurs disciplines artistiques une œuvre qui te touche particulièrement et dont tu as envie de nous parler.
Alors, j'aimerais parler du Banquier anarchiste. Donc, le Banquier anarchiste, c'est un roman de l'auteur portugais Fernando Pessoa, donc un auteur portugais du XXe siècle, qui a été publié en 1922. Et ça raconte un dialogue entre une personne, entre deux personnes, un banquier qui se revendique anarchiste et une autre personne qui se revendique aussi anarchiste. Et donc dans ce texte court, on assiste en fait au dialogue entre deux personnes dont l'apparence les oppose en tout point, mais qui finalement tentent un peu de décortiquer lequel d'entre les deux est le plus anarchiste. Et donc c'est une discussion intéressante pour interroger l'apparence, les idées politiques, le rapport à l'action.
Du coup, banquier anarchiste, ça fait presque un oxymore en fait.
Tout à fait.
Et est-ce qu'on pourrait redéfinir un petit peu ce que c'est que l'anarchisme pour les auditeurs ?
Oui, alors l'anarchisme, c'est un courant de pensée qui s'est développé au 19e siècle notamment. Et les gens associent beaucoup anarchie et désordre, mais... En fait, ce que souhaitent les anarchistes, c'est principalement l'émergence d'une société où la liberté serait la première raison d'être, où des formes de coopération existent, mais où les gens ne peuvent pas en fait, subir différentes formes d'autorité, que ce soit des autorités morales, une autorité patriarcale, une autorité économique, une autorité politique, religieuse. Et donc les anarchistes se sont toujours battus pour... faire émerger des rapports aux gens et à l'environnement fondés sur le partage et l'entraide, comme disait un de Kropotkin, un auteur anarchiste, plutôt que sur la survie.
Du coup, c'est une utopie toujours ou tu penses que c'est faisable, ce système-là, par exemple ?
Alors, c'est tout le sujet du livre, donc une œuvre vraiment forte pour ça. Et l'anarchisme, en l'occurrence, c'est possible, ce ne sera pas possible soit par une révolution armée, comme certains le défendent, soit par... Un écroulement du capitalisme, comme d'autres l'imaginent, mais par finalement une forme d'infusion au quotidien d'idées anarchistes dans le monde capitaliste dans lequel on est.
Et je voulais revenir aussi sur du coup la forme dialoguée, parce que moi ça me fait penser là à ce que tu me dis, donc ce dialogue entre un banquier anarchiste et une autre personne, tu m'avais dit que c'était un ouvrier je crois.
Absolument.
Voilà, ça me fait penser à une pièce de théâtre de Bernard-Marie Coltès qui s'appelle « Dans la solitude des champs de coton ». Où en fait, c'est un dialogue comme ça, ou plutôt un échange de monologues. Enfin, c'est comme une transaction qui se passe entre un client et un dealer. Et on ne sait pas quel est l'objet de désir du client, mais on sait que le dealer, lui, veut de l'argent. Et peut-être que le but de tout ça, de cette transaction, c'est le texte lui-même. Donc c'est pour ça que je voulais te parler de la forme dialoguée entre cet ouvrier et ce banquier qui ont l'air diamétralement opposés, mais qui peut-être ne le sont pas tant.
Alors de un, non seulement ils ne le sont pas tant parce qu'ils sont amis, mais de deux, la forme dialoguée, je trouve, moi quand je l'ai lu la première fois, il m'arrive souvent de le relire, je l'ai relu avant l'émission, en fait je suis frappé par le champ des possibles qu'ouvre la forme dialoguée. C'est-à-dire que contrairement à un roman où on suivrait, je ne sais pas si on prend Les Misérables de Victor Hugo, où on suit Jean Valjean en lutte envers et contre tous et qui parvient un peu à rétablir un peu de justice par ses actions ou par différentes choses, en fait la forme dialoguée permet à la personne qui lit de se représenter une issue. Un peu comme la fin dans Inception, où la toupie tourne elle est censée s'arrêter, mais on ne sait pas si elle s'arrête ou pas. Bon, désolé pour les gens qui n'ont pas vu Inception, j'ai spoilé. Mais c'est une fin ouverte, en fait. Et je trouve que c'est très intéressant, en fait. C'est un livre qui fait réfléchir. Et moi, j'aime bien les livres qui font réfléchir sans imposer certaines idées ou autres.
Comme chaque mois, Léonard, l'émission, elle se clôt avec le choix d'une bribe de phrase qui, normalement, est entendue
normalement.
Dans l'espace public, les transports, autour de toi, en fait. Une phrase comme ça qui t'a attrapé par sa dimension un peu décalée, absurde, ou quelque chose qui t'aurait choqué ou fait rire. Voilà, est-ce que tu peux nous dire vers quoi tu es parti?
Vers quoi
tu as dévié?
Voilà, j'ai dévié. C'était pas ce que je souhaitais, mais j'ai vraiment essayé d'être attentif à ce qui m'entourait dans l'espace public, dans les cafés, le métro, au travail. J'ai pas réussi, mais j'ai repensé à une bribe de phrase que j'ai dû entendre pour la première fois il y a un ou deux ans au détour d'une émission de Philippe Etchebest, Cauchemar en cuisine, où il remet d'aplomb à certains restaurants qui partent un peu en vrille. Et Philippe Etchebest dit un jour à une des personnes « Gentil, c'est pas un métier ». Et moi, j'ai trouvé que cette phrase m'avait marqué parce qu'en en fait, il associe une qualité morale ou un attribut de personnalité à une forme professionnelle. En fait, il associe deux choses qui ne vont pas nécessairement ensemble, mais par ce moyen-là, en fait, cette bribe-là, je trouve qu'elle me parle beaucoup dans le sens où la gentillesse n'est pas finalement n'est pas un absolu d'une certaine manière.
Ça ne peut pas définir une personne, quoi.
Exactement. Et les personnes qui...
Ce n'est pas une fonction non plus. On parlait de fonction avec le banquier.
Exactement. Et en fait, la fonction, finalement, être gentil par fonction, finalement, assèche même le potentiel de la gentillesse, puisque finalement, ça devient quelque chose de mécanique, de robotique, et pas quelque chose, au contraire, d'altruiste. Or, la gentillesse est censée irriguer l'altruisme et le rapport aux autres.
Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Léonard, d'avoir été la voix enchantée du jour.
Merci, Louisa.
On se retrouve le mois prochain, donc le 7 mars, à 18h, sur Radio Campus Paris.